RFI Matin continue, il est 7h44 à Paris, une heure de moins en temps universel. Et la suite de notre matinée ensemble, c'est l'un des événements sportifs de ce début d'année en France et en Europe. La plus grande ligue du monde de basket à Paris, la NBA, est dans la capitale française. Deuxième et dernier match ce soir et peut-être la revanche des Pacers, battus à plate couture jeudi par les San Antonio Spurs et le français Victor Wembanyama. Un retour à la maison en grande pompe pour Wemby, un bout de rêve américain en plein Paris, mais tout cela bien sûr à un prix. Les 16 000 spectateurs de l'Accor Arena ont dû casser la tirelire, environ 350 € la place en moyenne, inaccessible pour la plupart des passionnés de basket américain, des fans de plus en plus nombreux et de plus en plus connectés à la NBA, Victor Missistrano.
Chaque jeudi soir après l'entraînement, les joueurs de ce petit club de basket de l'Est parisien jouent les prolongations autour d'un verre. Cette semaine, le planning n'a pas changé, pas de match NBA. Tous auraient espéré une offre plus accessible.
Des prix abordables, notamment moins de 100 €, tu vois.
Là, le prix des places me refroidit trop.
J'ai même pas regardé, mais je sais que les deux, trois dernières années, c'était au-dessus de 600 €, truc comme ça. Ils auraient pu au moins faire peut-être quelque chose avec les licenciés de la Fédération de basket.
Ces deux matchs NBA offrent aux spectateurs européens des horaires plus classique, car c'est aussi le décalage qui rend les matchs plus difficiles à suivre, comme l'explique Fabien, grand passionné de basket américain.
Quand t'es au chômage, ouais, c'est facile, ouais. Parce que là, du coup, tu peux mater les matchs le lendemain matin. Mais évidemment, quand tu travailles, tu fais 9h-18h30, c'est compliqué de mater les matchs. Mais si t'es un vrai passionné, tu peux mater un match par semaine, en général. Moi, c'est mon rythme. J'ai oublié, il y a le dimanche soir. Généralement, c'est un match qui commence à 20h30-21h. Donc là, c'est abordable pour nous, on peut le regarder. Après, t'as aussi un vrai Instagram où tu peux voir tous les résumés. Bon, les meilleures actions d'un match, ça peut être un dunk, un contre.
Le patron de la NBA, Adam Silver, l'a bien compris, se délocaliser ne suffit pas pour conquérir un nouveau public.
Je pense qu'il se développera via diverses formes de médias. Nous parlons de délocaliser plus de matchs en Europe, mais ce n'est pas extensible. Et ce n'est rien par rapport à notre public mondial. 2 milliards de personnes consomment la NBA d'une manière ou d'une autre au cours d'une année.
Selon Adam Silver, les réseaux sociaux permettent de cultiver l'intérêt pour les matchs. Contrairement à la plupart des ligues de football qui verrouillent leur contenu, la NBA adopte une stratégie inverse.
Technologies de diffusion en continu nous permettent de personnaliser les flux, consommateur par consommateur, fan par fan. Si je veux regarder les matchs des Spurs et Wembanyama et entendre tout ce qu'il fait pendant ce match, c'est possible.
George Eddy aurait eu du mal à imaginer cela il y a 40 ans, quand il est devenu la voix du basket en France, puis en Afrique, sur la chaîne Canal+.
Quand on compare avec les premiers matchs que j'ai faits dans les années 80, c'était des matchs qui étaient joués 2 semaines auparavant, donc diffusés en différé. Il y avait un match par semaine. Maintenant, on peut voir tous les matchs, tous les jours. C'est une prolifération grâce à Internet et à la communication moderne. La NBA en profite pleinement et la France aussi.
Illustration avec ce contrat faramineux que vient de signer la NBA. 76 milliards de dollars au total pour les 11 prochaines années.
La NBA à Paris, notre reportage international signé Victor Missistrano.
RFI Matin.
Il aurait eu 80 ans il y a quelques semaines, le 4 janvier, et on le décrit souvent comme l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma africain, l'un des plus originaux et des plus visionnaires. 26 ans après sa mort, Djibril Diop Mambéty reste une référence et son œuvre, peu à peu restaurée, est toujours montrée dans les festivals d'Afrique et du monde. Retour sur son parcours ce matin avec Aboubacar Demba Sissoko, journaliste et critique de cinéma sénégalais. Il est notre grand invité Afrique avec Ouda Ibrahim.
Aboubacar Demba Sissoko, bonjour.
Bonjour.
En quoi Djibril Diop Mambéty, celui que l'on surnommait l'enfant terrible du cinéma au Sénégal, a marqué le cinéma de son temps?
Djibril Diop Mambéty est arrivé après qu'une première génération de cinéastes posait les jalons de ce qu'on a appelé cinéma africain, cinéma des Afriques. Il est arrivé à la fin des années 60 avec une écriture singulière, une esthétique qui s'écartait un peu, qui se démarquait de l'esthétique posée par le père fondateur. C'était dans les thématiques déjà, des thèmes qui abordaient la question coloniale, la question du rapport à l'Occident, les questions politiques, les questions sociales d'une certaine façon, mais sous le rapport des interactions entre l'Afrique et l'Occident.
Comme vous dites, il portait en lui, selon le critique, son Afrique. En plus de son style poétique, il refusait de faire un cinéma conventionnel. Peut-on dire qu'il est le cinéaste le plus marquant de sa génération ?
D'une certaine façon, oui, il est le cinéaste le plus marquant parce qu'il a apporté une rupture dans la façon de faire les films. Parce qu'il n'a pas été à une école classique de cinéma comme Sembène, Paulin Soumalou Viera, Ababacar Samb et autres qui ont été à des écoles. Lui, il est venu avec son regard d'artiste. Il est le plus marquant dans cette génération-là, au point qu'à lui tout seul, il constitue une école qui a influencé les générations qui ont suivi et qui continuent d'inspirer les jeunes générations qui font du cinéma aujourd'hui au Sénégal ou ailleurs en Afrique.
Djibril Diop Mombéti était un diseur d'histoire. Et il avait une qualité narrative extraordinaire, une proposition majeure de la vie collective. Et surtout, à Dakar, il a beaucoup filmé cette ville. Pourriez-vous nous dire comment il l'a abordé ?
Il l'a abordé du point de vue du bas, c'est-à-dire que Djibril Diop s'est intéressé à ce que lui-même a appelé les petites gens. C'est les gens dont on n'entendait pas les histoires, dont on n'entendait pas les aspirations, dont on ne voyait pas les récits dans le cinéma ou dans les arts en général. Et donc Djibril Diop s'est donné comme mission de porter à l'écran ces histoires-là, des gens de la marge dans Dakar. Il a essayé de coller à la façon dont ces gens-là entendez leur histoire, c'est-à-dire que c'est des contes, c'est des récits à partir de l'oralité qui prenaient en compte une façon de vivre ou de se mouvoir dans la société en dehors de certaines conventions établies.
C'est une ville de Dakar mi-fantasmée, mi-réaliste qu'il a filmée également.
Oui, c'est la ville dont il rêvait, mais la ville réelle telle qu'elle se donnait à voir. Par exemple, pour son premier film Contra City qu'il réalise en 1968, il fantasme la ville, mais il transforme les choses pour se donner à une critique à la fois sociale et politique. Et c'est à partir de cette première œuvre-là qu'on perçoit un cinéaste décidé à filmer à contre-courant, alliant comédie et drame, et puis les méthodes de la tradition orale à l'africaine.
Touki Bouki, son premier long métrage, a été reconnu dès sa sortie comme un chef-d'œuvre. Ce film constitue-t-il un document, une sorte de marque dans l'histoire du cinéma sénégalais ?
Au début, Touki Bouki a subi de violentes critiques, n'a pas été compris parce que c'était déroutant. C'est au fil du temps que Touki Bouki s'est imposé par son écriture, par l'esthétique qu'il a montré, que Touki Bouki est devenu un chef-d'œuvre.
Aujourd'hui, alors que l'on commémore à Dakar le 80e anniversaire de sa naissance, que représente-t-il pour la jeune génération de cinéastes ?
Il représente un repère. Quand vous interrogez aujourd'hui les jeunes qui font du cinéma ou peut-être même moins jeunes, ils vous citent Djibril Diop Mambéti comme quelqu'un qui les inspire. Oui, il représente un repère et son héritage est souvent questionné.
Aboubakar Demba Sissoko, merci.
Le journaliste et critique de cinéma sénégalais Aboubakar Demba Sissoko, invité RFI Matin de Ouda Ibrahim. Et dans notre reportage Afrique ce matin, la suite de notre série dans le quotidien des habitants de Bossongo en Centrafrique, à 50 km au sud-ouest de Bangui. Hier, vous entendiez le travail des forgerons locaux. Aujourd'hui, on se penche dans les assiettes, on parle du manioc, aliment de base dans le pays, puisque selon un sondage, 9 Centrafricains sur 10 en mangent tous les jours. Ici, on l'appelle le gozo et nombreux sont ceux qui en vivent aussi en le commercialisant. Rencontre avec ceux qui cultivent le manioc de Bossongo. Ils sont au micro de Rolf Steph Domiele.
Comme tous les matins, Joseph Kamila vient d'arriver dans son champ de manioc d'environ 10 hectares à proximité de Bossongo. sous un hangar en bâche, des tubercules de manioc sont entassés à même le sol. Assis sur des tabourets ou par terre, les ouvriers les épluchent. Joseph est un homme d'église. Il cultive le manioc depuis une vingtaine d'années. Ce métier n'a plus aucun secret pour lui.
Je suis pasteur, mais je gagne ma vie à la sueur de mon front. C'est la période de récolte. Après avoir épluché les tubercules, les ouvriers les plongent dans l'eau pendant 2 jours avant de les étaler au soleil. Et après séchage, le manioc est broyé au moulin afin d'obtenir la farine destinée à la consommation.
Grâce à cette technique de transformation, la clientèle n'est pas seulement locale. Elle provient également de la capitale et des localités environnantes. Debout à côté du dépôt, avec une vingtaine de sacs en plastique, Hortense, une consommatrice, a parcouru des kilomètres pour s'approvisionner à la source.
Le manioc d'ici est bien blanc avec un goût unique. Je viens de la capitale et c'est ici que je me ravitaille chaque mois. Mes enfants n'aiment pas le riz. S'ils ne mangent pas le manioc, ils ne sont pas rassasiés.
À Bossongo, presque tous les habitants sont à la fois producteurs, consommateurs ou commerçants de manioc. Assise sur un tabouret, non loin des sacs remplis, Fernande, 38 ans, fait partie de ceux qui tirent profit de cette activité.
Je pratique cette activité depuis une vingtaine d'années. Je suis veuve et c'est grâce à ce travail que j'ai construit ma maison, payé la scolarité de mes enfants. Le manioc me permet de m'occuper dignement de ma petite famille.
Dans sa plantation, Joseph Camilla emploie également une dizaine d'ouvriers et de démarcheurs qui gagnent leur pain grâce au manioc. Mais dans ce travail, les difficultés ne manquent pas.
Nos difficultés se résument au manque de matériel et surtout au tarissement des cours d'eau pendant la saison sèche. Nous n'avons pas de véhicule pour distribuer nos produits partout en Centrafrique, mais c'est un projet.
À Bossongo, le prix de la cuvette du manioc varie entre 2000 et 2500 francs CFA. Une fois acheminé à Bangui ou dans les périphéries, les prix sont ajustés à 3500 ou 4000 francs CFA pour permettre aux revendeurs d'en tirer profit. Rolf Esteve Doumialeu, Bangui, RFI.
Et à Bossongo comme à Bangui, il est bientôt 8h, notre reportage Afrique que vous retrouvez sur RFI.fr et on retourne du côté de Bossongo demain pour le 3e épisode de cette série. L'info continue sur RFI, il est bientôt 7h en temps universel.
RFI à Monrovia, 106 FM. Parakou, 106.1 FM. RFI Matin.
L'actualité des médias comme chaque samedi. Bonjour Amaury Drochegonde.
Bonjour Julien.
Nous parlons cette semaine des médias américains considérés par Donald Trump comme des opposants et qui connaissent des difficultés.
Et oui, ils savent qu'ils appartiennent à cette catégorie des ennemis du peuple décriés par Trump et qu'ils sont donc une cible possible. Jeudi, CNN a annoncé le licenciement de 6% de ses effectifs, dont une centaine de journalistes, pour réinvestir le terrain du numérique payant. Or, pendant qu'il annonçait ce plan, Mark Thompson, le patron de CNN, a fait part de ses exigences. Il a demandé de ne plus montrer de signes d'indignation lors de l'investiture, d'éviter l'éditorialisation et de ne plus revenir sur le passé pénal du candidat après sa condamnation pour avoir acheté le silence d'une actrice pornographique. C'est un revirement quand on se souvient qu'en 2022, CNN a été attaqué par Trump qui lui réclamait 475 millions de dollars pour diffamation car la chaîne qualifiait de mensonge l'idée que la victoire lui a été volé en 2020. Le juge a rejeté cette plainte, mais cela n'a pas empêché Trump de parler de CNN comme de la chaîne des fake news ou de la menacer de lui retirer à elle comme à ABC et CBS sa licence de diffusion. ABC qui a d'ailleurs accepté de payer 15 millions de dollars pour que Trump renonce à un procès après des propos erronés d'un présentateur.
Et c'est ce qui pousse Mark Thompson, le patron de CNN, à moins d'engagement ?
Peut-être, mais c'est aussi le raz-de-marée qui est allé vers sa rivale Fox News qui accumule près des 3/4 de l'audience des chaînes d'info. CNN doit contrer la chaîne ultra-conservatrice qui a le vent en poupe grâce à ses interviews de Trump ou ses infos sur son administration, mais aussi MSNBC qui revendique la place de l'opinion anti-Trump au grand dam de son actionnaire qui cherche à la vendre. Entre les deux, CNN a perdu 35% de son audience en prime time depuis l'élection, même si cette chute est aussi due à une fatigue post-électorale.
Et le Washington Post, Amaury, joue lui aussi la carte de la prudence.
Pour ne pas dire la frilosité, son propriétaire Jeff Bezos a refusé que le quotidien s'engage en faveur de Kamala Harris. Un dessin le représentant en train de tendre un sac d'argent à une statue de Trump a été censuré du journal et son autrice a démissionné. Il était présent le jour de l'investiture et il a fait un don d'$1 million pour cette cérémonie. Il n'entend donc pas perdre un contrat à $10 milliards sur la cloud de la défense comme en 2019. Alors certes, les scoops et les éditoriaux sur Trump du Washington Post ou du New York Times ont dopé les ventes pendant le premier mandat de Trump, mais aujourd'hui, c'est comme si la presse avait compris que la révolution populiste trumpienne n'était pas une parenthèse, mais une tendance de fond.
Merci à Maureen Rochegonde.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Après Radio Foot International toute la semaine, Mondial Sport le week-end. 50 minutes ensemble pour partir à la découverte de nombreuses disciplines aux quatre coins du globe. Invités, reportages, débats, discussions, découvertes. Rendez-vous tous les samedis et tous les dimanches sur la Radio du Monde à 16h10, temps universel.
C'est sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI Pure Radio.
La Foire internationale d'art contemporain africain, 154 Contemporary African Art Fair, revient à Marrakech du 30 janvier au 2 février. À découvrir les créations de plus de 90 artistes issus du continent africain et de ses diasporas. Plus d'informations sur 1-54.com. En partenariat avec RFI.